Adeguata, adeguata.
À qui devait laisser ça avec Jésus-Christ? Des marines grecs à Bourda, venus de Fousseille. Si tu es grec, de l'Asie au Minour, va gagner le Espéli Marcir, d'une de sa civilisation et sa spandigie en Occident.
Je vais te dire que ce soit Arach, Aster, Nabat Haritin, Huin Navastiner, Yegat, Pukul Asio, Fosse Kaken, Himnetin Marseille, Urge, Kaka, Gurtun, Jarakaitin, Rabin Kiovic.
2600 ans après, l'Odyssée du Gyptis, deuxième partie. Le Gyptis, réplique navigante d'un bateau grec massaliote des débuts de Marseille, il y a 2600 ans, poursuit sa navigation. Les ondes de Zinzine vous ont déjà amené à emprunter les flots du Gyptis. Pour cette deuxième partie, rejoignez l'équipage d'Arles à Marseille. Ce sera aussi l'occasion d'en apprendre davantage sur l'archéologie expérimentale navale en compagnie de Patrice Paumet et de Pierre Poveda.
Sur le plancher des vaches à Arles, une bonne étape aujourd'hui entre Saint-Gilles et Arles. On a remonté le petit Rhône, beaucoup à la remorque derrière le Zodiac, puisque il y avait un horaire à respecter. Ce soir, on est attendu au musée de l'art antique pour une conférence. Et puis on va aller voir l'artiste de la bande, Julien. Julien qui ne perd pas une seule seconde pour peindre les paysages que l'on croise. Et là, tu t'intéresses à quoi? Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu es en train de...
Je dessine la vue d'Arles, pardi. Ouais. La vue du Rhône à Arles.
Alors moi, je voulais interroger un rameur du Gyptis. Un vrai hein, qui en a dans les biscottos. Je sais qu'aujourd'hui tu t'es pas trop illustré de ça. Hier, pas trop non plus d'ailleurs. Qu'est-ce que ça fait de ramer sur le Gyptis?
Ça fait des ampoules. Et qu'est-ce que ça fait d'autre? Quand on rame sur le Gyptis, ça relâche le cerveau, quoi. Ça fait jamais de mal.
Dis-moi Guillaume, est-ce que je peux avoir le témoignage d'un rameur du Gyptis, un vrai, à mi-parcours de cette aventure? Qu'est-ce que ça fait de ramer sur le Gyptis?
Ah, c'est un très grand plaisir, un très grand honneur, surtout en ayant un capitaine comme Pierre. Puis c'est agréable de faire voguer un navire aussi vieux, même s'il est sorti des chantiers qu'il y a 6 mois. Mais la conception a plus de 2600 ans, donc...
Donc voilà. C'est un bateau tout neuf en fait, mais...
Mais de conception ancienne.
Est-ce que tu commences à avoir des ampoules un peu sur les mains, à force de ramer?
Non, j'en avais déjà avec les chantiers de fouilles archéologiques. Pourquoi le journaliste a des ampoules aux mains?
Moi j'ai quelques ampoules aux mains, ouais. Ah, tu vois, je dois avoir les mains trop fines, en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à être sur le Gyptis? Parce que je crois que tu as suivi la construction aussi.
Oui, je participe à la construction, surtout en tant que coudeur. Donc c'est un navire cousu, notamment ligaturé. Et du coup, je devais faire un stage pour mon master, étant en première année de master d'histoire. Et du coup, je proposais à Pierre s'il acceptait de me prendre. Et il a accepté, donc c'est comme ça que je rame. C'est un stage où il y a énormément de plaisir, du travail, car c'est physique.
Tu peux nous parler un petit peu de ces coutures que tu as réalisées?
Alors les coutures sont en lin. En fait, c'est un fil de lin qui va enserrer les bordées. Les bordées sont les planches qui forment la coque. Donc entre deux planches de bordées, des trous vont être effectués au moyen d'une perceuse. Les charpentiers ont utilisé des perceuses électriques, mais il faut savoir que les Grecs avaient déjà des perceuses, ce qu'on appelle perceuses à arc. donc un peu de la même manière comme on fait le feu. Et donc en fait, les trous vont être percés en biseau pour qu'à l'extérieur de la bordée, il n'y ait qu'un trou et qu'ainsi le fil ne soit pas apparent. Une fois les trous effectués, on va ajuster les bordées et faire passer le fil de manière à insérer un tissu de laine qui a été au préalable plié 8 fois. Et c'est uniquement cette ligature qui va tenir la bordée, mais qui va aussi faire l'étanchéité du navire avec l'aide du tissu de laine. Vu que les planches sont vraiment ajustées, au maximum il y a 1 mm entre chaque planche. Et du coup, en comptant le gonflement du bois dans la navigation, ça va faire l'étanchéité. Et après, on va rajouter à l'extérieur la cire mélangée avec la poix, qu'on retrouve aussi.
Ça ne suffit pas, juste le bois qui se gonfle.
D'après Pierre, ça pourrait suffire.
D'accord.
Mais comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir.
Donc du coup, un mélange de cire et de cire d'abeille et de poix.
C'est ça, 2/3 de cire d'abeille et 1/3 de poix. Mmh. Et à l'extérieur, en plus, on va rajouter des pigments, qui vont donner les couleurs caractéristiques du gyptis. Donc en haut, de couleur lit de vin, et en dessous, du noir.
Donc c'est un bateau très écologiquement responsable, on pourrait dire aujourd'hui.
On pourrait dire ça comme ça, fait main, bio, avec des produits du terroir. Que les bois proviennent des alentours de Marseille.
Mais j'imagine qu'à l'époque des Grecs, on ne se posait pas cette question-là.
On ne se posait pas cette question, non. Mais par contre, les bois provenaient forcément des environs de Marseille. Après, le fait d'être bio, c'est une conscience actuelle. Mais non, les Grecs ne se préoccupaient pas de ces questions.
Mais les bois, ils provenaient des alentours de Marseille parce qu'on n'avait pas de gros camions pour les transporter, j'imagine.
C'est ça, c'est ça. Après, ils étaient quand même capables de faire quelques kilomètres pour trouver les bons bois. Donc le pin qui ne se trouve pas... Le pin qui se trouve très facilement sur la côte. Mais après, le chêne, par exemple, il faut peut-être aller un peu plus à l'intérieur des terres. Ou le sapin pour le mât et la vergue. Donc, mais ils se fournissaient vraiment à côté. Tout comme le lest, on a utilisé galets de la Durance. Et on présume que les Grecs ont fait pareil.
Et pourquoi il y a besoin de différents types de bois alors? Ça dépend de l'usage des pièces que l'on fait?
C'est ça, chaque bois a ses propres propriétés. Du coup, on va utiliser pour la quille et le massif, donc le massif qui va tenir le mât. La quille est, on va dire, la colonne vertébrale du navire. Le chêne est un bois qui est assez résistant, qui résiste assez bien à la torsion. Du coup, on va vraiment l'utiliser pour maintenir le navire en place. Et ensuite, on va utiliser le pin d'Alep qui va être un peu plus souple pour faire la coque et les ponts du navire. On va utiliser le sapin pour le mât et la vergue, car c'est un bois qui pousse naturellement assez droit. Ça évitera de ployer à l'étuvée le sapin.
Merci pour toutes ces précisions techniques. Puis on aura plaisir à te retrouver plus loin au fil de l'aventure.
Oui, Guillaume. Oui, bien sûr.
4 caractéristiques de Gyptis. Barque côtière qui servait au cabotage et à la pêche. Conception du 6e siècle avant Jésus-Christ. Il a la particularité d'être un bateau entièrement cousu. Les planches de bordée ont été percées pour y faire passer un fil de lin qui les maintient ensemble. Longueur, 9,80 m. Largeur, 1,80 m. Poids de la coque, équipé, prêt à naviguer, 650 kg. Lest, 650 kg. Poids total, 1,5 tonne. Tirant d'eau maximum, 42 cm. Mise à l'eau le 12 octobre 2013.
Vendredi 25 avril 2014. On navigue sur le Rhône, le Grand Rhône ce coup-ci, à destination de Port-Saint-Louis-du-Rhône. On est parti de Arles ce matin. Et c'est une navigation aujourd'hui mixte à la force humaine, à la rame, et puis à la force du vent, à la voile.
Borde légèrement, Guillaume.
Oh, une nuée de flamants roses qui passe au-dessus de notre tête.
Ouais.
Magnifique. Oh, il y en a bien une centaine. Hein. Plus que ça encore, tu penses? 21 000 à faire jusqu'à Port-Saint-Louis, ce qui nous promet une belle journée de navigation.
on retrouve Patrice Paumet, directeur de recherche émérite au centre Camille Julien, bien installé au poste de barre du Gyptis.
Est-ce que vous avez participé à d'autres projets d'archéologie expérimentale?
Alors, oui, j'ai participé aux navigations expérimentales du Kyrenia, qui est une réplique navigante d'un bateau grec du 4e siècle. Et j'ai traversé une partie de la mer Égée avec, de Rhodes jusqu'à Chypre, avec l'équipe archéologique de l'époque. Et puis les Danois, notamment du musée des bateaux vikings de Roskilde, avec Ole Kromlin Pedersen, se sont fait une spécialité de ces répliques navigantes de tous les drakkar. Et il se trouve que j'ai été pendant une petite dizaine d'années membre du Conseil scientifique international de cette institution. J'allais deux, trois fois par an au Danemark, à Roskilde, pour participer au conseil scientifique. Et j'ai pu suivre de très près ces reconstructions. Et puis j'ai pas mal navigué sur ces répliques de bateaux vikings. Disons que ça faisait déjà longtemps que je m'intéressais à ce domaine de l'archéologie expérimentale en archéologie navale. Si j'en rêvais depuis très longtemps, il a fallu attendre 30 ans, 40 ans, pour pouvoir enfin construire une véritable réplique navigante. Et à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup d'autres, parce que c'est tellement compliqué en termes de montage, d'opération. Il faut avoir d'abord le projet, mais même quand on a le projet, il faut trouver les gens pour le faire, il faut trouver les financements, il faut tout le mettre d'accord, il faut que le projet séduise. Et c'est quand même une opération, il n'y a pas de secret, hein, c'est 500 000 euros une opération comme ça. 500 000 euros, aujourd'hui, tu ne les trouves pas comme ça. Il faut savoir qu'il y a 6 emplois à la clé, je veux dire, c'est une petite entreprise, en fait, c'est une PME, une opération comme ça. J'ai pu faire inscrire le projet à la programmation de la candidature de Marseille 2013, puis quand Marseille a obtenu le label, le projet a été confirmé, et à ce moment-là, j'ai eu assez rapidement le soutien de la région PACA et de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Alors on était parti un peu sur l'idée de construire le grand bateau. Le budget du grand bateau, c'était en passé à 750 000 euros. Quoi. Et ça passait plus. Et donc, à un moment, les financeurs m'ont dit « Bon ben voilà, on vous donne tant. Démerdez-vous, en gros. » Et en somme, ça a été à moi de faire rentrer la construction du bateau dans le budget qui m'était imparti. Une opération d'archéologie expérimentale comme ça n'a de sens que s'il y a un vrai cahier des charges, s'il y a un véritable protocole scientifique qu'il faut définir, s'il y a un comité scientifique qui vérifie qu'on respecte bien le protocole, etc. Il faut définir quels sont le champ d'expérimentation, etc. Donc dès le départ, on savait qu'on voulait respecter les matériaux, respecter les principes de construction, respecter les méthodes. En revanche, dès le départ, on savait que pour des raisons de temps, etc., c'était peut-être pas la peine de tout faire aux forêts archées. Donc on a accepté l'idée de recourir à l'outillage électrique, perceuses électriques, scies, des gauchiseuses, etc. Même chose, on a abattu les arbres à la tronçonneuse. Moi, ça m'aurait amusé de faire au moins l'abattage d'un arbre à la cognée pour la beauté du geste et de l'image. Mais ça ne se trouve plus aujourd'hui. En France, il n'y a plus de bûcherons qui soient capables de faire de l'abattage à la cognée. Il y en a peut-être dans les Vosges, dans le Jura, mais il n'y en a plus dans nos régions. Alors ça, c'était défini dans le protocole expérimental. On disait, voilà, on fait porter notre expérience sur tel et tel point sur lequel on sera intraitable. On veut respecter absolument les principes fondamentaux et du protocole là-dessus. En revanche, dès le départ, on savait que sur l'outillage, on ferait appel à l'outillage moderne, etc. Puis ensuite, il faut monter l'opération sur le plan financier, ce qui suppose aussi passer des conventions. Alors là, tu vois, le truc est un peu fastidieux. Il faut faire des conventions entre le CNRS, l'université, qui sont les tutelles de Camille Julien, et puis les financeurs. Alors dès que tu mets faire signer un papier au CNRS, à l'université, il faut que ça remonte au président, de la région, au président. Bon, à chaque fois, pour une signature, c'est un mois, quoi. Quand on n'a pas des mauvaises surprises, par exemple, en plein milieu du projet, il y a eu la fusion des trois universités d'Aix-Marseille. Je veux dire, pendant 6 mois, j'avais plus d'interlocuteurs. Donc pendant 6 mois, le projet a été complètement gelé. Après, il a fallu reprendre toutes les négociations avec la nouvelle direction. Donc le projet, en réalité, il a failli complètement capoter plusieurs fois. Et puis, ce qui a été très difficile, c'est de trouver le bon montage juridique de l'opération. On était parti dans un premier temps sur un montage financier qui faisait qu'on demandait aux financeurs qui étaient la région et MPM de financer par l'intermédiaire de l'association Arcaios. Je pensais que c'était le plus simple. Et en fait, ça a posé énormément de problèmes et ça a failli tout faire capoter. Donc finalement, il a fallu retrouver un autre cadre juridique. Et c'est comme ça que c'est l'université qui a pris la maîtrise d'ouvrage. Et en tant que maître d'ouvrage, on a passé ce qu'on appelle des marchés négociés. Ça se fait dans le domaine scientifique, mais les gens n'aiment pas trop parce qu'un marché négocié, c'est un marché qui se fait sans appel d'offres ni publicité. Alors quand on met en jeu des sommes aussi importantes que des budgets de l'ordre de 500 000 euros, surtout à Marseille, ils n'aiment pas trop. C'est faisable à condition de pouvoir démontrer qu'il n'existe pas de marché concurrentiel pour l'objet du marché. J'ai dû rédiger des notes techniques pour expliquer qu'il n'y avait pas de marché concurrentiel dans la construction de bateaux grecs archaïques du 6e siècle avant Jésus-Christ, assemblés par ligature. Même chose, il a fallu que je démontre que le chantier Borg avec que l'on avait sélectionné avait les compétences pour faire ce genre de réalisation parce qu'ils avaient déjà travaillé en archéologie. Il a fallu argumenter pour passer dans ce cadre juridique qu'on a mis en place in extremis. À une semaine près, on se plantait complètement. Dans le financement, donc j'avais de quoi recruter donc 4 charpentiers de marine en permanence, le poste de Pierre, des postes de gestion et de secrétariat, des postes de médiation. Il y a 5000 heures de charpentiers qui étaient budgétisées, mais il y a 2000 heures de ligature, et les 2000 heures de ligature, attention, c'est du travail bénévole qui n'a été rendu possible que grâce aux étudiants. Et voilà. Et donc, on a fait venir les étudiants essentiellement de master de l'université. Donc, on a un master d'histoire des techniques à laquelle participe d'ailleurs Guillaume, c'est comme ça qu'il est venu, et Philippe Jocquet, qui est un grand ami et un copain. Et donc, avec lui, on a pu recruter comme ça des étudiants. On a eu des stagiaires des lycées professionnels, Poinçon-Chapuis, qui a une section charpentier de marine. Donc on a eu aussi des stagiaires charpentiers. Et puis on a eu des amis bénévoles. Il y a eu un moment où on faisait venir les copains et les copines qui venaient au moins passer quelques jours. Voilà. Et il y a, au total, on a eu 2000 heures de travail de couture, de ligature, etc., qui a été 2000 heures de travail bénévole. Ouais. Sans ce travail bénévole, là encore, on n'aurait pas réussi à mener l'opération complètement. Hein.
Et vous avez mis en place aussi de la médiation.
Dans l'équipe, on avait quelqu'un qui s'occupait de toute la partie presse, la communication, etc. Bon, quelqu'un du labo. Et en même temps, on voulait... Alors ça faisait partie, dès le départ du projet d'origine. Et c'était important dans l'obtention des financements. C'est-à-dire, en même temps, il fallait donner une visibilité au projet. Et donc, l'idée était que le chantier soit ouvert au public pendant toute la construction du bateau. Et donc on a monté une équipe, on a recruté une équipe de médiateurs, que je connaissais déjà, que j'avais rencontré, spécialisés dans la médiation de projets archéologiques, donc ils étaient complètement dans l'esprit. Sur le chantier, il y avait un espace public ouvert au public, avec des panneaux explicatifs où des gens comme ça, tout seuls, pouvaient venir et trouver toute l'information. Il y avait 7 grands panneaux qui expliquaient toute la genèse du projet. Et puis en même temps, les médiateurs, l'équipe des médiateurs, médiatrices, organisaient des visites auprès des écoles, auprès de groupes. Alors les chiffres que j'avais à la fin de la construction, on avait reçu plus de 5000 personnes, plus d'une centaine d'écoles. Puis dans les diverses manifestations, on avait dépassé les 5000 personnes. Pendant toute étape de navigation, quand on a fait le parcours côtier, à chaque étape, on mettait en place les panneaux sur le port, il y avait les écoles qui venaient, et pratiquement à chaque étape, moi j'ai fait des conférences à Cassis, j'ai fait des conférences à La Ciotat, comme hier soir ici à Arles. Donc ça c'est le principe, au cours de nos escales. On a participé au salon nautique de La Ciotat, et puis là dernièrement on a participé aux journées de 7, à Escale à 7, qui était un rassemblement de bateaux traditionnels, de vieux gréements, qui a duré pendant un peu plus que le week-end de Pâques, et où là encore le bateau a, je sais pas, là j'ai pas fait les comptes, mais il y avait facilement plusieurs centaines de personnes qui sont venues voir le bateau, quoi. Au mois de juin, on sera hier pour les journées de l'archéologie. En juillet, on revient ici à Arles. Il y a 2 journées aussi de médiation en liaison avec le musée d'Arles et d'activités nautiques autour du Rhône. Ensuite, il y aura septembre en mer à Marseille. Ensuite, il y aura la fête de la science étant aussi vers la mi-septembre. Voilà, donc on a déjà tout un petit programme d'activités entrecoupées de navigation. On naviguera à la fois pour notre plaisir et puis avec Pierre, on voudrait commencer aussi tout un petit programme d'expérimentation. Et puis, si tout se passe bien, si le bateau se comporte bien, on peut espérer encore naviguer l'année prochaine. J'aimerais bien. Mais ça, on verra si les ligatures tiennent le coup, si non, le bateau tient bien. Je crois que de toute façon, même si on arrive à naviguer encore en 2015, une saison de navigation en 2015, après, ben, il faudra songer à... Le bateau, il sera fatigué, il faudra refaire les ligatures, il faudra se lancer dans des travaux qui nous dépasseront et pour lesquels je n'aurai certainement pas les crédits parce qu'on a épuisé les possibilités de financement à travers Marseille 2013, donc maintenant ça va être difficile. Et donc à ce moment-là, ben, le bateau, on le mettra dans un musée, quoi. Il terminera ses jours, comme beaucoup de ses répliques navigantes, dans un musée. Mais entre-temps, il sera lui-même devenu un bateau historique. Et il faut savoir, pour terminer, qu'actuellement en Méditerranée, il n'existe que 2 véritables répliques navigantes de navires antiques. Le Kyrenia que j'évoquais tout à l'heure et le Gyptis.
Ma barque au loin se balance autour de moi quand tout est bleu. Tout alors semble sans importance et tout m'apparaît merveilleux. Dans mon bateau, j'ai tous mes rêves, tous mes rêves. D'argent sont toute ma fortune et mon cœur est plein d'amour sous le clair de lune. Dans mon bateau, j'ai tous mes rêves, tous mes rêves les plus. Notre amour et le plus beau du monde, pour le protéger des curieux. Dans mes bras, venez au gré des ondes, faisons un voyage à nous deux. Dans mon bateau, j'ai tous mes rêves, tous mes rêves les plus beaux. Ils viennent me bercer sans trêve, dans l'enchantement de mon amour.
Les étoiles d'argent sont toute ma fortune, et mon cœur est plein d'amour sous le clair de lune.
Dans mon bateau,
route pour le Cap Couronne sur le Gyptis en ce samedi 26 avril. Le Cap Couronne puis Marseille. Retour au port d'attache.
Ça fait combien, là ?
On est parti ce matin de Port Saint-Louis-du-Rhône. Une petite navigation à la rame pour commencer, histoire de sortir du canal Saint-Louis jusque dans le golfe de Fos où on a établi la voile. Un petit mistral à 10 nœuds environ qui va nous pousser sur Marseille tranquillement.
Là, tu les remets là, dedans, dans le bateau. Tu prendras ces trois cargues là, et tu montes.
D'accord, je tire.
Ok. Et moi, je reste à l'écoute, de toute façon.
Ouais, les écoutes, ça va, mais faudrait surtout gérer les cargues dans le pire des cas.
Toi, tu es aussi étudiant, Guillaume, en histoire.
Ouais.
Qu'est-ce que ça t'apporte du point de vue de ton cursus universitaire de naviguer sur le Gyptis ?
Eh bien, je suis en Master 1 d'histoire des techniques, patrimoine d'histoire des techniques. Et du coup, c'est vrai que faisant de l'histoire navale, naviguer sur le Gyptis, c'est une occasion de mettre en pratique un peu toute cette théorie parfois lourde. Et de voir comment se comporte un bateau.
Parfois lourde, c'est-à-dire
comme toute théorie, il faut apprendre par cœur et les termes de marine, les chronologies des différentes technologies maritimes, différents navires. Du coup, c'est vrai que ça demande pas mal de travail pour la fac.
Et donc, la mise en pratique ? C'est du travail, c'est du loisir, c'est quoi ?
Les deux, mon capitaine. Et c'est-à-dire que si tu travailles, quand je dois faire un rapport de stage en ce qui concerne les techniques de navigation à bord du Gyptis, mais après, c'est du loisir, parce que c'est vrai qu'un stage comme ça, c'est pas tous les jours, et si on aime naviguer, si on aime la mer, et avoir dans les embruns, c'est l'occasion rêvée.
Et c'est ton cas, t'as déjà des expériences de mer ?
Et surtout les expériences de plongée, c'est vrai que la mer, j'ai jamais tellement navigué à part entre Marseille et le Frioul.
Écoute aussi. Tu aussi ?
Ouais. Là, faut pas étirer les coudes beaucoup plus que comme ça. Un tout petit peu plus. On va ramener sur l'arrière, là au râtelier, on va les régler.
Donc on vient de faire un empannage. C'est-à-dire qu'on a changé la voile de bord pour pouvoir continuer notre descente sur Marseille, au vent arrière. Bon Julien, c'est un peu la croisière s'amuse aujourd'hui, non ?
Ça dépend des moments, hein. Des fois c'est la galère, et puis des fois c'est la croisière.
Tu vas peindre aujourd'hui un petit peu ?
Ouais, dès qu'on m'autorise.
Bon alors Julien, qu'est-ce qui t'a amené à bord du Gyptis ?
Auparavant, j'avais rencontré Patrice Pommet, je l'ai connu à Alexandrie, donc il savait que je dessinais. Et quand il a lancé le projet, il avait envie d'avoir un espèce de reportage dessiné, ou en tout cas qu'il y ait un artiste qui, qui suivent un peu, qui observent ça, et ne sachant pas très bien ce qu'on en ferait, quoi. Donc je suis allé sur le chantier en essayant de... Bon, avec cette commande floue, disons. Et je ne savais pas très bien quoi y faire. J'ai un peu dessiné les charpentiers. Mais c'était pas facile parce que j'avais pas tellement de fil pour mon travail. Donc du coup, bon, c'est resté un peu en plan. Et puis, il s'est trouvé que quand il finissait la coque, quoi, il y a un moment, il fallait faire un œil. Donc dessiner et puis s'occuper aussi des couleurs, enfin tout ça. Donc il y avait un travail un peu artistique. Et du coup, il a fait appel à moi à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, j'ai fait l'œil à l'encaustique. Puis on a un peu réfléchi sur les compositions des cires et tout ça, là, pour faire les revêtements, quoi.
Donc c'est l'œil qui se trouve sur la proue du gyptis.
Il y a un œil de chaque côté.
Et qui décore donc le bateau. Ouais. Et il a peut-être une autre fonction, cet œil.
Alors apparemment, c'était aussi pour chasser le mauvais sort, quoi. C'était une superstition. De la même manière qu'à l'avant on a fait l'œil, à l'arrière on a sculpté le nom en grec et en français, quoi, disons, avec un alphabet un peu hellénique, disons, qui rappelle un peu la Grèce. Ben là, je suis là pour cette semaine-là parce que j'ai senti que s'il y avait du dessin à faire, c'était bien de le faire pendant la navigation et pendant une navigation un peu cohérente, c'est-à-dire sur une semaine, par exemple, un trajet 7-Marseille, ça me semblait une belle aventure à dessiner. Donc, voilà, j'essaye de m'y tenir et d'essayer d'un peu dessiner tout le temps, quoi. Malgré les manœuvres qu'il ne faut pas manquer de faire. Ouais, voilà.
Et tu as toujours envie de naviguer après ce voyage ?
Ah, ouais, encore plus. Ouais.
Encore plus ?
Ouais.
Quelle destination ?
Méditerranéenne, si possible. Ouais. Ça serait marrant d'aller dans d'autres pays. Ouais. Dans d'autres pays, de camper de cric en cric, de caboter jusqu'à ce qu'on puisse plus le faire.
Parce que qu'est-ce que tu trouves dans ce cabotage qu'on vient de réaliser là, puisqu'on est sur le retour à Marseille ?
Qu'est-ce que je trouve ? Je trouve que c'est rigolo de découvrir le monde un peu par une porte dérobée. Parce qu'on peut voyager, facilement, loin et rapide, etc. On peut avoir l'impression de connaître des villes, mais quand on les prend par derrière, comme ça, par la mer, lentement, qu'on campe. Voilà, qu'on rencontre des gens un peu au hasard, comme ça, quoi. Par exemple, là, à Port-Saint-Louis, c'était rigolo aussi. Voilà, donc c'est marrant.
Qu'est-ce qui était rigolo à Port-Saint-Louis ?
C'est marrant de passer de d'Arles à Port-Saint-Louis, c'est pas loin, et en fait, on voit bien la différence, quoi. Les gens sont différents. Voilà, d'être obligé d'y passer la nuit, on n'a aucune raison de passer une nuit à Port-Saint-Louis-du-Rhône, quoi. Mais si on a un bateau et qu'on ne peut plus prendre la mer, si. Des choses qui deviennent possibles si on navigue plus longtemps, quoi, plus doucement.
Siamo partiti a vincere malustalo, il fumale per bulle le strasse, la veni bulega su fanao, vali vule in ovvi la macina, lo baletti usen del pistol, e leo che se scaffe la riba, marcio fuori che siamo più denisto, di la grande mescla di lo du mondo, menare in la nostra sao, a roli si anche la musica suona, lei sa navega la nao. La grande canzone della planeta vuole impuntare strambò come un tiranio che già mai s'arresto vesi il talento e lei può
na 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 Zezveraj, che siam fiu de fuseio, navegalus va cantalusan. Zezveraj, che la dee soveio, ora fa pace melusean. Dai elei zembucan de la vido, che cumense la buena sazu. Zezveraj, che la de meravio, besai che la sigara gesù. Di la grandome scradiro du munde, menage la nuestro sao. A golisian che la musico suone, lexa navega la nao. Din la grando canzone della planeta, vuole puntare strambo. Yeah! Mo ci ragno che c'ha mai sa che sta, visitare in tuoi lei poi. Na 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 na. Regine della vita, le notte che la voglia carga, alla baio lei cavi in giro, le notte che le spera guarda, e marca che lu passa se scranca, la venta bagna dei nostri blu, e marca che lu presenza ranca, per si tuba dei nuveli flu, di la grandome scladiro du mondo, menale la nostra sao, yeah! A goli si anche la musica suone, lei sa navega la nao. La grande canzone della planeta vuole imputare strambo. Come ci ragno che c'ha mai sa che sta, vesita che in tuoi lei po. Vesita che in tuoi lei po. Vesita che in tuoi lei po. Vesitare, vesitare, vesitare in tuoi lei po.
On va à 5 nœuds et demi. Et on est au Cap Couronne dans 30 minutes. Et donc on a fait, depuis ce matin, on a fait 8000 et demi. En 2 heures. À la vitesse de 3,95. On est pas mal, non? On est bien. Hein,
on est bien. Il y a le soleil.
C'est dommage qu'il n'y ait pas le café.
Il y a juste ce qu'il faut comme vent.
Bon, on irait dans l'autre sens, ce serait la galère. Ouais. On a un vieux fond de houle là, de plein ouest, ouais, qui nous porte, mais vu que l'Égyptis il est hyper léger,
il surfe sur la vague.
C'est du genre à s'arrêter dès qu'il rencontre un obstacle. Alors que là, on est vraiment, mais c'est royal.
Pierre, qu'est-ce qui t'a amené au Égyptis?
Je me souviens pas comment, mais je sais qu'à 17 ans, 16-17 ans, je me réveille un matin et je sais que je veux devenir archéologue sur les bateaux. Après, ça fait sens avec là où j'étais avec mes parents quand j'étais jeune, parce que je plongeais, on allait voir plein d'épaves. On laissait le bateau à Bodrum en Turquie, dans un endroit où il y a les Américains et les Turcs, ils ont fouillé plein d'épaves antiques. Et, quand j'étais petit, on allait dans le château Saint-Pierre à Bodrum. Et c'est un château des chevaliers de Malte. Et il y a plein d'épaves dedans. Et en fait, à 16 ans, voilà, ça m'a plu, j'ai voulu faire ça. Et du coup, je suis venu avec Exprès, travailler avec Patrice. Et le projet, il était déjà en route, mais bon, ça, il y a eu plein de soubresauts administratifs qui ont fait qu'il n'a pas démarré. Avant que je passe ma thèse, je fais la soutenance, puis j'ai embrayé direct sur le Gyptis. Donc, du coup, c'était
donc
une
ça a
bonne...
été un concours de circonstances, ouais, assez sympathique. Quoi.
Ouais, mais même tout mon parcours universitaire, c'est que des suites de concours. Enfin, tout se passe comme sur Gyptis quand il navigue en vente arrière depuis Port Saint-Louis à Marseille. Mmh. On était destinés à sauver un agneau de la noyade sur un bateau cousu du 6e siècle avant, un week-end de Pâques. C'est ce que je disais à Julien ce matin. Pour faire vraiment que ce soit une belle odyssée, il manquait plus que les dauphins. S'il y a ça, là, on commencera à se poser des questions. On se dira que vraiment le bateau, si ce n'est Poséidon, il existe bien, il est dans un coin bien caché.
Patrice Pommé t'a confié la mission de suivre la construction et les navigations du Gyptis.
Ouais.
J'imagine que tu dois être aux anges là, parce que c'est un peu tes deux passions qui sont réunies en une.
Ouais, c'est super de faire ça comme travail. Après, c'est vrai que ça génère pas mal de stress, puisque bon, il y a pas mal de logistique, ça reste un bateau assez que pas très compliqué dans sa manœuvre, mais bon, qu'il faut aborder comme une vieille voiture où il faut y faire attention, quoi. Faut pas trop le pousser, on sait pas où ça nous mène quand même. Bon, là maintenant on commence à bien le connaître, donc on sait qu'il est jeune et vaillant, mais c'est vrai, faut faire attention aux équipiers, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Hier, quand on est rentré là dans l'écluse de Port-Saint-Louis-du-Rhône, on s'est fait une petite frayeur, parce qu'on avait passé une super journée. Tous, on s'était un peu fait endormir par l'aspect tranquille et rapide de la nave. Et quand on est arrivé à l'écluse, on n'avait pas assez bien préparé la chose. Et c'est vrai que remonter le courant et le vent à la rame, on n'y arrivait pas. Et heureusement qu'il y avait le Zodiac. C'est typiquement le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Mais bon, là, aujourd'hui, on est vernis quand même.
Ouais, parce que le Zodiac nous a sorti de ce mauvais pas en nous tractant.
Ouais.
Puis après, le passage de l'écluse, on a eu un plaisancier qui nous a un peu chagriné, on va dire.
Ouais, il nous a un peu carrément
enquiquiné.
C'est dommage qu'on n'ait pas eu un harpon ou une baliste à bord, parce que là, je peux te dire, c'est vrai, c'était vraiment n'importe quoi.
Ouais, il s'est planté au milieu alors qu'il devait nous laisser la place pour sortir. Et voilà, et ça s'est terminé où je suis passé à l'eau.
Ouais, on était bien fatigués. La manœuvre était finie, on était à l'abri. Et le petit Pierre, là, il a voulu descendre sur le quai. Et en fait, il s'est glandé dans l'eau comme un sagouin.
Ouais. Et le grand Pierre, qu'est-ce qu'il va faire pour la suite avec le Gyptis ou sans le Gyptis?
Pour la suite, on a 2-3 navigations de prévues. Puis on va essayer de naviguer quand même un maximum en rade de Marseille. Ce serait pas mal. Après, on verra. Peut-être destination musée, destination chantier pour la reprise des coutures. On verra. Ça reste un peu flou encore.
Et ta propre destination à toi, ça reste flou aussi?
Ouais, ça reste un peu flou, mais toujours travailler sur des épaves. Dessiner des bateaux antiques, peut-être des bateaux un peu plus modernes, ça me plairait bien, on verra. Dessiner des bateaux,
tu vas devenir architecte naval ou tu continues l'archéologie? Tu vas faire le rendu alors?
Finalement, c'est un travail d'architecte naval, hein, mais même si on n'en a pas toutes les connaissances, mais pas mal, hein, finalement, au labo, on maîtrise bien. On check la manœuvre là, que le vent se lève un petit peu, là je pense qu'on est en train de bien tracer. On a une houle du 3 quarts arrière là qui est gentillette, mais faut faire gaffe quoi.
Bah écoute, moi je vais prendre l'écoute.
Ouais, non mais c'est bon.
Et puis, pour être préparé quoi, ouais. C'est tout.
On va regarder ce petit au fond de la couronne là qui est un peu vilain. Il y a le voilier qui est devant nous, qui est parti en même temps que nous, mais au moteur. Il nous a mis une petite mine au début, mais je me demande si là on n'est pas un petit peu en train de le rattraper. C'est pas mal. Mais voilà, il y a un bon mètre de creux quand même. Très très ample. Ouais. C'est un résidu de houle du large. Parce que les vagues du vent sont assez faiblardes. On va essayer de gagner un petit peu au large pour l'avoir dans le cul. De toute façon, une fois qu'on a passé le Cap Couronne, là, on prend plus est. Et on aura vraiment les vagues au cul. Là, c'est pas très agréable là pour l'instant, mais après, ce sera nickel. Mais on a un bon marqueur à bord du bateau, c'est qu'on a Julien qui est à l'avant, qui commence à bailler, ce qui veut bien dire qu'il a l'estomac qui se retourne. Dès que Julien me présente des signes de mal de mer, c'est qu'on sait que ça bouge un peu. Mais là, il a sorti sa tablette pour dessiner, donc...
Donc il va s'occuper, donc le mal de mer va lui passer,
ouais,
quoi.
Je pense. Il a mangé une petite banane,
ça dépend.
Il est au soleil, il va pas avoir froid. Alors, où on en est, nous?
Sineux, tranquillou.
Ouais. C'est pas mal, hein.
C'est tout à fait honnête.
Ah bah ouais, carrément.
Est-ce que tu peux nous parler de ton travail un petit peu en laboratoire? T'as commencé à nous esquisser ça, donc dessiner des bateaux, tu prends ton crayon gris, ta gomme et c'est parti? Non, ça se passe un peu autrement, je crois.
La gomme et le crayon gris, je les prends quand on est sous l'eau. Et en fait, le premier job, ça va être, quand on est en fouille, de relever tous les éléments des épaves, les dimensions des pièces, faire les plans, les relever en coupe, etc. Parfois, maintenant, on utilise des lasers, des photogrammétries, ce genre de choses qui permettent d'avoir tout en 3D. Et à partir de là, mon vrai travail en labo, ma spécialité, c'est de, à partir de ces éléments-là, faire toute l'analyse qui va permettre, dans un premier temps, de redresser les parties conservées qui ont généralement été déformées, soit par le poids des cargaisons, soit par le poids du sable qui s'est déposé dessus. Et dans un second temps, entreprendre une enquête véritablement d'archéologie qui va faire qu'on va recroiser les données avec les épaves les plus proches, avec d'autres éléments comme l'iconographie ou même des bateaux dans le monde entier. Comme sur Gyptis, on est allé, enfin moi je suis pas allé, mais on a bien regardé ce qui se faisait en Inde, puisque ils ont eux aussi des bateaux cousus et quasiment de la même manière que Gyptis.
Mais tu veux dire, c'est pas des épaves là, c'est des bateaux qui naviguent.
Ouais, c'est de l'ethnographie du coup. On mélange l'ethnographie, l'iconographie sur les vases, les bas-reliefs, les peintures murales, les graffitis et l'archéologie pour dresser un plan des parties disparues du bateau. Et donc ça, on le fait généralement. Avant, je le faisais à la table à dessin au Rotring, mais maintenant on est passé l'ordinateur. Du coup, je fais des grands modèles 3D hyper précis de tous les éléments du bateau. Et dans un second temps, une fois que j'ai fait ça, je fais une petite analyse sur la stabilité du bateau. On essaye de percevoir un peu son comportement à la mer. Et dans le meilleur des cas, on peut même faire des analyses pour tester en simulation sa vitesse sous voile, etc. Mais bon, ça, c'est des choses qui restent à développer. Pour l'instant, on fait des très très beaux modèles 3D qui font que, bah, par exemple, sur Gyptis, j'en étais à modéliser pas le fil de lin, mais au moins tous les petits perçages qu'on a réalisés sur le bateau. Si on va au musée d'histoire aujourd'hui, il y a deux ou trois petits films des épaves.
Bah, tu parles du musée d'histoire de Marseille?
Ouais, de Marseille à la Bourse. Il y a deux ou trois petits films où on voit des modèles 3D qui sont en fait nos modèles 3D quasiment, qui ont été repris et mis en forme pour faire comme si les bateaux voguaient rentraient dans le Marseille antique. Et c'est diffusé sur des grandes télés, du coup les gens s'approprient un peu mieux l'histoire de ces bateaux. C'est un bon outil à la fois de travail et de vulgarisation quoi, vers le public pour qu'ils puissent imaginer comment ces trois pauvres bouts de bois qui ressemblent à rien, en fait, en réalité, au départ, étaient un bateau. Ils pouvaient naviguer, transporter des gens, transporter des animaux, aller faire la guerre, aller découvrir des nouvelles contrées, aller pêcher, faire alors, tout ce qu'on fait aujourd'hui en
alors,
mer.
S'il y a tous ces outils numériques, ouais. Quel est l'intérêt de construire un bateau avec tous les problèmes que ça pose, à savoir chercher des financements, à savoir les problèmes techniques et le temps qu'il faut y passer pour le construire?
On est dans un élément fini, le bateau, qui est hyper complexe, avec quantité de matériaux différents qui vont interagir en fait une fois en mer et dont la complexité est difficilement modélisable, on va dire, en simulation numérique. Rien que pour la simulation d'une résistance du lin à la mer, au temps, au soleil, etc. Je pense qu'il faudrait débourser 60 000 euros, alors finalement, on peut le faire aussi simplement. Et puis, quand je fais les modèles 3D, on va dire, il y a plusieurs niveaux de détail. Et généralement, quand on restitue un bateau, on s'arrête au niveau de détail un peu inférieur, qui permettrait pas véritablement de réaliser le bateau. On a quantité de plans qui permettraient presque de le faire, mais il en manque un petit peu. Donc du coup, réaliser véritablement le bateau, ça permet de se poser des questions vraiment en profondeur et d'aborder certains problèmes qu'on n'aborde pas parce qu'on les néglige à des stades moins détaillés de l'étude. Et puis finalement, d'avoir un bateau comme ça sur mer, au moins on apprécie, voilà, là on est assis dans le bateau, On sent la houle, on sent comment il se comporte, comment il passe dans la vague, comment il bouchonne sur l'eau.
Ouais, on ne fait pas que l'observer sur un écran, quoi.
On ne fait pas que l'observer sur un écran, on le sent, quoi. C'est assez intuitif. En fait, on peut l'imaginer, hein, comment il va se comporter. Mais dans les très très grandes lignes, même si on fait des simulations, ça demeure quelque chose d'assez approximatif et assez complexe à faire. Donc finalement, pourquoi pas construire un bateau et partir pour véritablement naviguer avec. C'est quand même plus cher, mais c'est une aventure humaine et une expérience scientifique qui est quand même beaucoup plus riche que si on était avec un ingénieur de chez Dassault ou de chez pas n'importe quelle boîte qui serait apte à réaliser ce type d'études de manière hyper détaillée. Et là, si on veut faire, si on veut s'énerver, on fait comme Tessier. On s'arrête pas à Marseille, on va direct au...
On va direct en Polynésie.
On va direct à La Ciotat déjà dans un premier temps, parce que là, on fait cap sur Tiboulen bientôt. Enfin, on va attendre de passer le petit au fond et puis on fait cap sur Tiboulen. Allez, c'est parti, on va en Corse.
Allez, direct en Corse.
Ça va souffler très fort ce soir, je crois, au large. Ça monte à 40-45.
Au-delà du plaisir que tu as à partager ces moments de navigation, les moments où le Gyptis était en chantier, au-delà du plaisir de partager ça avec d'autres personnes,
ouais.
Est-ce que ça apporte au niveau de la découverte scientifique ?
Du point de vue de la construction, c'est évident qu'on n'aurait pas eu ces charpentiers-là, qui étaient hyper... intégrés dans le projet, c'est-à-dire qu'ils se le sont appropriés, ils étaient intéressés, ils avaient une envie d'apprendre et de connaître ces techniques-là quasiment aussi fortes que la nôtre. Ce qui fait que c'était génial de pouvoir travailler avec ces gens-là. S'il n'y avait pas eu ces charpentiers-là, si on n'avait pas eu nos discussions entre archéologues et charpentiers pour réfléchir sur la façon dont on allait construire le bateau, il n'aurait pas été aussi bien construit et le projet, il n'aurait pas été aussi chouette au niveau de la construction. Véritablement, quand on l'a mis à l'eau, le bateau, et qu'on a fait les premiers tests à la mer, et on s'en rend compte encore aujourd'hui, c'est qu'il est vachement bien né, il est sain, et je pense que c'est parce qu'on a travaillé vraiment la main dans la main qu'on a réussi à faire un projet comme celui-là, quoi. Et maintenant, sur les navigations, c'est... Voilà, de voir passer des gens, qui nous donnent des appréciations sur la façon dont ils ressentent le bateau, dont ils... c'est vachement intéressant, mine de rien, de vous avoir à bord, d'avoir plusieurs points de vue. C'est bien, parce que nous, peut-être, on est un peu trop... Parfois, on est un peu trop intéressés soit à la bonne tenue du bateau, soit aux enregistrements scientifiques. Alors que peut-être quelqu'un qui est plus libéré, il va juste apprécier le moment, apprécier le bateau, peut-être se fondre un peu plus dans la peau des marins d'avant, alors que nous, finalement, on est dans un processus qu'on avait imaginé, mais qu'on apprécie, hein, mais parfois, on n'a pas...
Vous avez un enjeu, quoi.
On a un petit enjeu, et je pense que... Un jour, dans pas longtemps, on pourra vraiment apprécier les navigations sans se poser de questions. Mais là, on en est encore à faire des grandes traversées, à enregistrer les données, à essayer de percevoir tout ce qui peut être perçu dans le bateau. Donc pour l'instant, ça demeure encore un enjeu de travail, un enjeu scientifique qu'il faut pas galvauder.
C'était 2600 ans après, l'Odyssée du Gyptis, deuxième partie. Une émission réalisée par Pierrot sur une navigation de Sète à Marseille, du 22 au 26 avril 2014, avec Julien.
Quand on rame sur le Gyptis, ça relâche le cerveau, quoi. Ça fait jamais de mal.
Guillaume.
Pourquoi le journaliste a des ampoules aux mains ?
Patrice Paumé. Directeur de recherche émérite au centre Camille Julien d'Aix-en-Provence.
J'ai dû rédiger des notes techniques
pour expliquer qu'il n'y avait pas de marché concurrentiel dans la construction de bateaux grecs archaïques du 6e siècle avant Jésus-Christ, assemblés par ligature.
Et Pierre Poveda, archéologue en charge de la construction et des navigations du Gyptis.
Dès que Julien me présente des signes de mal de mer, c'est qu'on sait que ça bouge un peu.
Merci également à tous les équipiers croisés à bord du Gyptis pour leur coup de rame, sans oublier Béranger, archéologue et responsable du Zodiac de sécurité.
Serrado de la mar, quand le pintre soulève, fa des fouilles de roses. Lugao es un juillet, la rive es un année, passao de du monde. La uba resta secreta, tira dei dinduleta, si blento se rapido. La seu raio lo ciele, comun cheire un negre, ves l'invisible obuto.
Musique. Dans mon bateau, interprété par Alibert, Embarcats et Serradas de la mort de Moussu Telejovent.
Serrado de la mar, quand le pintre soulève, fa des fouilles de roses. Tanca sur le lindau, ligado in lo silenzi, calù contro calù. Per viure lo momento, che lo tristi si esconde, e la linda e lila. Minuto piccioneta, desrauba dalla fam, cansa meso la ville.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Zinzine, radiozinzine.org. Vous y trouverez également la première partie de cette émission, également disponible sur le site esgourde.net.
Merci à Aurélie d'avoir prêté sa voix pour vous orienter dans cette croisière.
Bon vent et à bientôt sur les ondes de Radio Zinzine.
Serrado de la mar, quand le pintre soulève, fa des fouilles de roses. Sur la pared en face, un grand linceau qui sèche, un velo de bateau. Se l'auro buffo mai, sani la visita, lei esti della terra. Li mescla mei canzoni all'entour della tavola dei fraire d'Otuba.
Serrado della mar, quand lo pintre sous l'air, fa des fouliers des roses.